Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 30 décembre 2020. Bonjour, bienvenue. Le Niger est toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle, un scrutin censé marquer la première transition démocratique entre deux présidents élus dans ce pays habitué aux coups d'État et en proie à des attaques djihadistes récurrentes. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a poursuivi mardi la proclamation des résultats au compte-gouttes à la télévision et à la radio nationale. Elle n'avait annoncé en fin d'après-midi les résultats que d'une vingtaine de communes sur les 266 du pays et il est donc impossible de tirer des enseignements des scores réalisés. Le principal enjeu du scrutin au Niger est de savoir si le favori, Mohamed Bazoum, bras droit du président sortant Mahamadou Issoufou, 68 ans, qui ne se représentait pas à l'issue de ses deux mandats constitutionnels, sera élu dès le premier tour ou non. Côte d'Ivoire, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition pour décrisper le climat politique a été suspendu mardi, sans qu'un accord soit conclu après une semaine de pourparlers en vue des législatives qui se tiendront au mois de mars. Des blocages persistent sur la libération des leaders politiques emprisonnés après l'élection présidentielle du 31 octobre, du retour des exilés notamment de l'ex-président Laurent Gbagbo et de la recomposition de la commission électorale que l'opposition juge déséquilibrée en faveur du pouvoir. Les violences électorales liées à la présidentielle boycottée par l'opposition qui a appelé à une campagne de désobéissance civile ont fait 85 morts et 500 blessés entre août et novembre. Les violences intercommunautaires du week-end dernier à Massanta, dans le sud de la Guinée, ont fait plus de 20 morts, a affirmé mardi un élu local, le gouverneur de la région ayant reconnu que le bilan de 11 morts avancés jusqu'ici avait évolué à la hausse. 27 présumés auteurs ont été interpellés suite aux événements tragiques ayant entraîné des cas de mort et de destruction diverses à Massanta, a indiqué mardi soir le ministère guinéen de la Justice, sans préciser le nombre de victimes. Au Maroc, l'opposant et défenseur des droits humains Mahdi Mounjib a été placé en détention préventive mardi dans une affaire de blanchiment de capitaux. « Je suis innocent de toutes ces accusations diffamatoires », écrit-il, a-t-il écrit récemment sur sa page Facebook. Le défenseur de droits humains est âgé de 60 ans. Matib Mounjib a déjà reçu le soutien de plusieurs organisations internationales de défense des droits humains qui ont demandé l'abandon des charges. Le programme de vaccination élaboré par l'administration de Donald Trump prend beaucoup de retard, a déploré mardi son futur successeur Joe Biden, s'exprimant à Wilmington dans l'État du Delaware. Joe Biden a notamment souligné que près de 2 millions de personnes avaient à ce jour été vacciné, soit 10 fois moins que l'objectif que le président Donald Trump avait promis d'atteindre. Joe Biden s'est engagé à ce que 100 millions de doses soient inoculées d'ici le 100e jour de sa présidence, un objectif qui nécessitera de multiplier par 5 ou 6 le rythme des vaccinations ici aux États-Unis. Mitch McConnell, le chef de file de la majorité républicaine au Sénat américain, a décidé de repousser le vote sur l'augmentation du montant de l'aide qui sera versée aux particuliers en dépit des appels du pied du président Donald Trump qui a prié les sénateurs d'agir au plus vite. La Chambre des représentants américaine, contrôlée par les démocrates, a voté lundi en faveur d'une aide directe aux particuliers revue à la hausse à 2 000 $ comme le demandait le président républicain Donald Trump dans le cadre du plan de relance approuvé la semaine dernière par le Congrès. En plus de la question du plan de relance, le Sénat américain doit se prononcer sur le veto opposé par Donald Trump au projet de budget de la défense pour 2021. VOA Afrique Info, nous sommes le mercredi 30 décembre 2020. En ligne de mire dans ce journal, notre correspondant en Centrafrique, Freeman Sipila, nous donnera des nouvelles de la RCA, notamment des élections de dimanche. En cas de vacances de pouvoir au Gabon, le pouvoir reviendra à un triumvirat. Les parlementaires gabonais ont adopté la nouvelle donne dans la constitution de leur pays. L'Union européenne et les États-Unis ont demandé mardi à la Chine de libérer immédiatement une journaliste citoyenne condamnée à 4 ans de prison après avoir couvert l'épidémie de COVID-19 à Wuhan. À ce micro, Jean-Roger Billon, nous émettons de Washington.
La suite de nos informations en ce mercredi 30 décembre 2020 en République centrafricaine. Le dépouillement du vote du 27 décembre se poursuit. Le gouvernement et l'autorité nationale des élections se félicitent du déroulement de ces scrutins, même s'ils ont été émaillés de violence dans certaines régions du pays. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Pour couper court aux inquiétudes et spéculations sur les élections présidentielles et législatives du 27 décembre en Centrafrique, Maxime Kazaghi, le porte-parole du gouvernement, a fait ce mardi la mise au point suivante.
On parle donc de 800 bureaux de vote qui n'auraient pas été ouverts sur 5408 bureaux qui, eux, ont été ouverts. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que 85%, je dis bien 85% des bureaux de vote ont été ouverts au public pour que les élections aient lieu. Alors, je voudrais dire aussi que, en l'état actuel de notre dispositif juridique, aucun seuil n'est fixé pour la légitimité ou la crédibilité d'un vote.
L'autorité nationale des élections, qui se félicite également de la tenue de ces scrutins malgré les tensions dans certaines régions, assure que les résultats globaux provisoires seront connus le 4 janvier prochain. Mathias Barthélémy Moruba, son président.
Le code électoral nous donne 8 jours. Nous en avons jusqu'au 4 janvier pour proclamer les résultats provisoires. Nous avons mis en place tout un dispositif, donc nous avons le temps qu'il faut. Nous nous sommes mobilisés pour que 24 heures sur 24, nous puissions travailler afin que les délais soient respectés.
Alors que le pays est suspendu aux résultats de ces élections, sur les lignes de front, la tension reste vive entre forces nationales, leurs alliés et les rebelles de la coalition des groupes armés, bloqués depuis près d'une semaine à l'entrée de Bangui. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Le Parlement gabonais réuni en congrès a adopté mardi une révision de la Constitution sur la vacance du pouvoir. En cas d'empêchement du président de la République, le pouvoir sera confié au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au ministre de la Défense. Le point avec Abdourahmane Dia.
Avec plus de 89% des voix, les deux chambres du Parlement ont adopté la loi portant modification de la Constitution, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, lors d'une session retransmise en direct à la télévision nationale. Le chef de l'État a souhaité que soient tirées toutes les leçons de ses ennuis de santé qu'il a rencontrés fin 2018, a déclaré le porte-parole de la présidence, Jesse Ela Ekoga, lors d'une récente conférence de presse. Autre modification notable, l'article 78 de la Constitution prévoit que le président de la République qui a cessé d'exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits commis dans l'exercice de ses fonctions. L'opposant Jean-Gaspard Toutoumé Ayi a lui critiqué ces modifications constitutionnelles. Pour lui, ces mesures et notamment l'impunité dont va jouir le président sont symptomatiques d'une grande peur et de la preuve que les actes des membres du pouvoir relèvent de la haute trahison.
L'Union européenne et les États-Unis ont demandé à la Chine de libérer immédiatement une journaliste citoyenne condamnée à 4 ans de prison après avoir couvert l'épidémie de COVID-19 à Wuhan. Yakuba Ouedraogo.
L'Union européenne appelle à la libération immédiate de Mme Zhang Zhang ainsi que celle du défenseur des droits et personnalités détenues en Chine pour avoir apporté des informations d'intérêt public, déclare Joseph Borrell, porte-parole du chef de la diplomatie européenne. Nous appelons le gouvernement de la République populaire de Chine à la libérer immédiatement et sans condition, affirme de son côté le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui dénonce régulièrement le rôle de Pékin dans la gestion de la pandémie. Zhang Zhang s'est rendu en février à Wuhan, alors en proie à l'épidémie de COVID-19, diffusant sur Internet des reportages surtout sur la situation chaotique des hôpitaux, arrêtée en mai, accusée de provocation aux troubles et de diffusion de fausses informations, elle a été condamnée lundi à 4 ans d'emprisonnement par un tribunal de Shanghai. Bruxelles réclame aussi la libération de 12 militants hongkongais arrêtés en août lorsqu'ils tentaient de quitter l'ancienne colonie britannique en bateau à destination de Taïwan et dont le procès à huis clos a débuté lundi à Shenzhen, en Chine.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco avec Michel Joseph.
La vente d'alcool est interdite en Afrique du Sud jusqu'au 15 janvier au moins. La décision a été annoncée lundi soir par le président Cyril Ramaphosa, dont le pays vient de franchir la barre du million d'infections au nouveau coronavirus. Les comportements imprudents dus à l'ivresse ont contribué à l'augmentation des transmissions. Les accidents et violences liées à l'alcool mettent sous pression nos services d'urgence, a expliqué le chef de l'État sud-africain. En République démocratique du Congo, le mouvement d'humeur des éco-gardes du parc national de Kahuzi-Biega dans la province du Sud Kivu se poursuit. Ils réclament depuis le 24 décembre 10 mois d'arriérés de salaire et empêchent le personnel du parc d'y accéder. Accord de coopération entre la Compagnie Générale Libyenne d'Électricité et la Compagnie Nationale d'Électricité et de Gaz d'Algérie. À travers cet accord signé dimanche à Alger, les deux compagnies s'engagent à étendre leur coopération dans les domaines de la production, du transport et de la distribution d'électricité et de gaz, ainsi que les énergies renouvelables et la formation.
À présent, la page des sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le FC Renaissance du Tchad paye les frais du conflit opposant la Fédération tchadienne de football au ministère des Sports. Initialement prévu mercredi dernier, le 16e de finale aller de la Coupe CAF entre le FC Renaissance du Tchad et l'Entente sportive Sétif d'Algérie n'a pas pu se tenir parce que les portes du stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena sont restées fermées à cause d'un conflit opposant la Fédération tchadienne au ministère des Sports. Sur sa page Facebook officielle, l'Entente sportive Sétif affirme qu'il a été qualifié sur tapis vert. La direction du club a reçu une correspondance faisant état de la qualification officielle de l'équipe pour les 16e de finale, indique le club algérien qui sera fixé sur son adversaire pour le tour de cadrage à l'occasion du tirage au sort prévu le 8 janvier. En Angleterre, 18 joueurs et membres de staff du championnat anglais ont été testés positifs au Covid-19. A annoncé la Première Ligue qui ajoute que 1479 joueurs et membres de staff ont été testés. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis le début de la campagne de tests hebdomadaires dans le championnat anglais. Le match entre Manchester City et Everton, prévu lundi, a dû être reporté en raison de plusieurs cas au sein du club mancunien. Début décembre, le match Newcastle-Aston Villa, comptant pour la 11e journée de Première Ligue, a été reporté en raison de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l'effectif des Magpies. En Espagne, Diogo Costa n'est plus un attaquant des Colchoneros. L'Atlético Madrid et Diogo Costa sont parvenus à un accord pour la résiliation du contrat de l'attaquant qui se terminait le 30 juin 2021. Le joueur hispano-brésilien a demandé à quitter le club pour des raisons personnelles. L'avant-centre aux 24 sélections avec l'Espagne a souffert de nombreuses blessures en 2020. Il a manqué 12 matchs depuis mi-octobre, arrivé au club en 2006 à 17 ans. Diogo Costa a disputé 215 matchs officiels en deux étapes, entre 2010 et 2014, puis entre janvier 2018 et janvier 2020, marquant 83 buts et offrant 36 passes décisives, a précisé le club.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Au Mali, les funérailles de l'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, ont eu lieu mardi. La messe de requiem a été présidée par l'archevêque de Bamako en la grande cathédrale. Elle a été suivie de l'inhumation du défunt au cimetière catholique de Bamako Koura. Compte rendu, Kassim Traoré.
C'est dans la grande cathédrale de Bamako que les funérailles de Pierre Buyoya ont débuté. Pendant plus d'une heure de temps, il y a eu l'homélie du curé, l'abbé Noël Samaké, suivi des bénédictions et prières du cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako. Le tout sous le contrôle du ministre des Maliens de l'Extérieur, Alhamdou Ag Iliem.
C'est une communion avec la famille de l'Élysée disparu. Et puis un témoignage de reconnaissance et l'expression de notre profonde gratitude à cet grand Africain du Burundi qui a quitté son pays pour nous accompagner depuis le début de cette crise qui est, on peut le dire, mort à la tâche. Donc le gouvernement malien ne pouvait qu'être là en solidarité avec la famille, en totale compassion et apporter aussi sa solidarité, donner son accord pour l'inhumation de cette l'illustre africain sur cette africaine, terre africaine du Mali.
Le Burundi n'a pas envoyé une délégation officielle pour ses funérailles, mais des Burundais ont fait le déplacement de Bamako pour rendre un dernier hommage à leur président.
Je m'appelle Freddy Nkulikiye, je suis d'origine burundaise et je suis de la diaspora burundaise, je vis en Suisse. Je rends hommage à l'ancien président Pierre Buyoya, qui au Burundi, malgré les vicissitudes du moment, est reconnu pour avoir mené trois actions importantes. C'est l'homme de l'unité nationale au Burundi avec la charte de l'unité, c'est l'homme de la démocratisation, mais c'est également l'homme des réformes. Et je pense que cela est retenu par la majorité des Burundais.
Au cimetière catholique de Bamako, plusieurs personnalités ont fait le déplacement, dont l'ancien ministre des Affaires étrangères du Mali, non moins directeur de cabinet du président de la Commission de l'Union africaine, Abdoulaye Diop.
Nous en retenons le souvenir d'un homme qui était totalement engagé pour la paix, pour la stabilité, qui a beaucoup donné au Mali, qui a beaucoup donné au Sahel, qui a beaucoup donné à toute l'Afrique. Il a œuvré dans son pays pour l'unité, pour la réconciliation et pour l'avancée démocratique. Et je crois que ce sont ces valeurs et ces avancées que nous retenons aujourd'hui de cet homme qui, en définitive, avait son destin au niveau du Mali. Et au nom de l'Union africaine, nous voudrions vraiment remercier tout le peuple malien d'avoir fait aujourd'hui de ce cimetière la dernière demeure du président Buyoya.
Au nom de la famille Buyoya, c'est Salvador Nyozima qui a fait la lecture de l'oraison funèbre.
Par ma voix, la famille de son excellence Monsieur Pierre Buyoya exprime sa profonde gratitude aux autorités maliennes, en commençant par la première d'entre elles, à savoir son excellence Monsieur le Président de la République, pour toutes les facilités accordées. Ce sont des liens tout particuliers qui viennent d'être créés avec sa famille, car les raisons de son immigration ici au Mali vous sont bien connues. La famille Buyoya ne doute point de votre disponibilité que la terre du Mali, cette terre du Mali qu'il a tant aimé, lui soit légère.
Pierre Buyoya est décédé le 17 décembre à Paris à cause de la maladie à coronavirus à l'âge de 71 ans. Il laisse derrière lui 4 enfants, 3 filles et un garçon. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Le Conseil de sécurité de l'ONU va mettre fin demain jeudi 31 décembre au mandat de la MINUAD, la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour. La résolution 2559, adoptée la semaine dernière, confie la responsabilité du maintien de la paix dans cette vaste région de l'ouest du Soudan aux autorités de transition à Khartoum. Quel va être l'impact d'un tel retrait? Écoutez l'analyse d'Ibrahim Khan de OSIWA, Open Society Initiative for West Africa. Il a été joint à Dakar par Bagasikoura.
C'est une décision qui va aussi un tout petit peu forcer le gouvernement soudanais à vraiment finaliser les accords qu'il a signés avec les groupes rebelles et à vraiment commencer à agir pour que la région du Darfour, qui est l'une des plus grandes régions du Soudan, revienne à une certaine normalité. Vous savez, la présence généralement des forces des Nations Unies dans un pays et sur une longue durée n'est jamais à l'avantage de l'État. Non seulement les forces des Nations Unies occupent un territoire déterminé, mais pratiquement toutes les fonctions de l'État sont assumées par elles. Et donc, cette fin de processus au Soudan qui vient après la signature des accords entre le gouvernement et les forces rebelles va certainement pousser le gouvernement à vraiment être plus regardant sur une application beaucoup plus forte de l'accord qui a été signé avec les groupes rebelles.
Là, on parle de 8000 militaires. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de vide sécuritaire?
Bon, vide sécuritaire, vous savez, à partir de l'instant où l'État a signé un accord de paix avec pratiquement tous les groupes rebelles dans la région, et à partir du moment où il y a une sorte de confiance qui s'est installée entre ces groupes rebelles et le gouvernement intérimaire qui est actuellement en place à Khartoum, ce risque sécuritaire, pour moi, est minimisé. En plus, je suis persuadé que ce sont les militaires qui partent, mais il y a encore d'autres structures qui vont rester dans une période intérimaire pour observer peut-être un certain nombre de problèmes comme les droits de l'homme et autres.
Cela veut dire que le Soudan aura toujours besoin de l'accompagnement international?
Tout à fait. Mais vous savez, même si les Nations Unies passe, l'Union africaine garde toujours la structure qu'elle avait créée sur le Soudan et le Sud-Soudan et qui est dirigée par maintenant Alpha Oumar Konaré, après avoir été gérée pendant un certain temps par le président Mbeki. C'est vous dire que les négociations continuent, les discussions continuent avec le gouvernement soudanais, avec le gouvernement sud-soudanais. Et donc, y a toujours un œil de l'Union africaine et aussi, comme je vous l'ai dit, les Nations Unies vont laisser quelques éléments sur le terrain et donc vont accompagner le gouvernement. Ce n'est pas aussi simple que cela, mais c'est important que de plus en plus le gouvernement vraiment assure sa souveraineté sur cette partie du pays qui a beaucoup souffert, notamment des questions de violation des droits de l'homme. Et
Ibrahim Khan, analyste à OCIWA, Open Society Initiative for West Africa, il a été joint à Dakar au Sénégal.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, nous faisons une rétrospective des grands sujets qui ont dominé l'actualité africaine durant l'année 2020. Nous revisiterons la pandémie de COVID-19 qui a ralenti les activités économiques, sportives et culturelles. L'actualité politique marquée par le débat sur le troisième mandat dans certains pays, notamment en Guinée et en Côte d'Ivoire, ainsi qu'une série d'élections dans plusieurs pays du continent. Sans oublier le renversement de la majorité parlementaire en RDC. Dites-nous ce qui vous a marqué cette année. Rendez-vous ce jeudi 31 décembre 2020 à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Les restrictions imposées en Afrique du Sud dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ont eu un impact négatif sur un nombre incalculable de Sud-Africains, y compris ceux de la classe moyenne. Anita Powell de VOA a rencontré un jeune Sud-Africain diplômé de l'université qui raconte comment ses rêves de promotion sociale ont été brisés. Le récit est de Salwa Jafari.
Comme beaucoup de Sud-Africains, Tshegofatso Balirelang a connu une année difficile alors que son pays a imposé des mesures strictes contre le coronavirus au prix d'une économie déjà en difficulté. Il a été licencié en juin et a emménagé avec sa famille.
Les choses sont devenues difficiles, même à la maison. Je ne pouvais pas subvenir aux besoins de ma famille comme avant. Et à l'époque, je vivais avec mon grand-père et mon père et aucun d'eux n'était employé. Nous devions donc essentiellement survivre grâce aux subventions qu'ils recevaient du gouvernement.
Des millions de Sud-Africains racontent une histoire similaire cette année. Mais Balirelang est l'un des rares Sud-Africains à avoir un diplôme universitaire, emblème du rêve d'une classe moyenne noire robuste. Un rapport des Nations Unies estime que jusqu'à 34% des ménages de la classe moyenne sont désormais vulnérables. La pandémie a porté un coup dur à une économie déjà en contraction, avec des taux de chômage records.
Dewi Root est économiste en chef à Efficient Group.
Les choses allaient plutôt mal avant le début de cette année. Et puis nous avons eu ce virus et ce verrouillage et tout est passé de mauvais à vraiment, vraiment mauvais. Je pense qu'aujourd'hui, l'économie sud-africaine n'est même pas en récession. Elle est en fait dans une profonde dépression.
Le président Cyril Ramaphosa a reconnu les dommages causés par la pandémie et a appelé à la patience. Lorsqu'il a annoncé un verrouillage plus tôt cette année, il a également mis en place une série de mesures de relance économique, principalement destinées aux ménages pauvres.
L'histoire m'absoudra parce que la détermination de corriger les choses est là. Et nous pouvons avancer à un rythme lent, et nous pouvons avancer à un rythme où les gens veulent des mouvements plus rapides. Mais nous corrigeons les choses avec soin.
Mais de nombreux Sud-Africains disent que ce n'est pas suffisant. Balirelang ne pouvait pas prétendre aux allocations de chômage car il n'était pas sans emploi depuis assez longtemps.
Je pense que malheureusement, il y a une certaine perspective selon laquelle, même si vous faites partie de la classe moyenne, vous seriez toujours en mesure de survivre à la pandémie si vous veniez à perdre votre emploi. Ou il y a toujours l'hypothèse qu'il y a encore de l'argent mis quelque part pour que vous puissiez survivre, même si ce n'est pas pour longtemps. Mais il y a encore quelque chose sur quoi vous pouvez survivre jusqu'à un certain temps. Et malheureusement, ce n'est vraiment pas le cas.
L'économiste Dewi Root dit qu'il est fondamentalement plus inquiet pour les pauvres qui ont ressenti les pires effets.
Le ministre des Finances ne peut faire qu'une seule chose. Il n'y a vraiment qu'une seule chose à faire. Il doit dépenser moins d'argent. Et inévitablement, cela signifie qu'il doit dépenser moins d'argent pour les gens. Cela signifie qu'il doit commencer à couper, il doit commencer à fermer les entreprises publiques, licencier beaucoup de fonctionnaires et payer le reste moins. C'est ce qui doit arriver. Et c'est ce qui va se passer. Soit nous le faisons maintenant, pendant qu'il a encore un peu de contrôle, soit l'inflation va le faire pour vous avec le temps, éventuellement.
Valérie Lang a atterri sur ses pieds pour l'instant, avec un emploi dans un hôpital gouvernemental. Mais l'année prochaine sera-t-elle meilleure? Il reste optimiste. Malheureusement, les statistiques ne lui donnent pas raison.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, après 4 ans de la politique prônée par le président Donald Trump, l'Amérique d'abord, le président élu Joe Biden a déclaré que son administration réaffirmerait le rôle historique des États-Unis sur la scène internationale. Margaret Bisher, correspondante de VOA aux Nations Unies, rapporte que les attentes de l'organisation sont élevées. Récit Abdourahman Dia.
Lorsqu'il a présenté le mois dernier les membres de son cabinet en charge de la sécurité nationale et de la politique étrangère, le président élu Joe Biden a déclaré que ces personnalités démontrent que l'Amérique est de retour.
Prêt à diriger le monde, pas s'en éloigner. Prêt à affronter nos adversaires, pas à rejeter nos alliés. Et prêt à défendre nos valeurs.
Aux Nations Unies, l'administration Trump a réduit les financements de plusieurs programmes, dont des missions de maintien de la paix, des initiatives pour les réfugiés palestiniens et des projets de santé reproductive des femmes. Les États-Unis se sont retirés d'agences onusiennes comme l'Organisation mondiale de la santé et mis fin à un accord majeur sur le climat. La communauté internationale réagirait positivement à toute mesure de Biden, annulant rapidement certaines des décisions de Trump. Les experts disent que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, aura probablement plus de latitude avec la nouvelle administration américaine. Richard Gowan de l'International Crisis Group.
Je pense que nous allons voir Guterres présenter des plans assez ambitieux dans l'année à venir sur la manière de lutter contre le changement climatique et de lutter contre les inégalités. Parce que dans un sens, il aura plus de liberté pour promouvoir des idées de coopération internationale ambitieuses après une période où il a dû être extrêmement prudent pour éviter d'offenser Trump.
La candidate de Biden au poste d'ambassadeur des Nations Unies et membre de son cabinet est la diplomate de carrière Linda Thomas-Greenfield.
L'Amérique est de retour. Le multilatéralisme est de retour. La diplomatie est de retour.
En privé comme en public, des diplomates ont salué sa nomination. Jerry Madjila est l'ambassadeur de l'Afrique du Sud auprès des Nations Unies.
Nous pensons qu'elle apportera sa vaste expérience, plus de 3 décennies de diplomatie, et c'est ce dont nous avons besoin maintenant. En ce moment, nous avons besoin de compétences diplomatiques, de maturité et de savoir que nous avons une cause commune tous ensemble.
La question est de savoir s'il faut rejoindre l'accord nucléaire iranien mettra rapidement à l'épreuve la nouvelle administration. Voici ce qu'en pense Renda Slim du Middle East Institute.
Le président élu reconnaît que la route sera difficile. Si l'Iran devait se conformer strictement à l'accord de 2015, alors les États-Unis le rejoindraient, mais uniquement pour permettre des négociations. C'est là que les difficultés vont commencer.
Aux Nations Unies, la Chine a décidé d'étendre son influence alors que l'administration Trump diminuait sa présence. De nouveau, Richard Gowan.
Biden, je pense, voudra limiter l'influence chinoise, mais il sait qu'il est tout de même nécessaire de travailler avec Pékin.
Alliés et adversaires sont impatients de voir comment Biden et son envoyé à l'ONU mettront en avant ce nouveau leadership américain aux Nations Unies.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.